sent ça toujours comme une espèce de viol de notre intelligence de s'entendre dire qu'il faut faire l'induction de l'ousia, l'induction de la substance. Pourquoi? Parce que on s'est installé dans notre idéologie qui consiste à se mettre dans un coton qui fait qu'on ne veut pas que notre vie personnelle puisse enfin s'éveiller. On est bien dans notre coquille et comme le poussin a du mal à faire éclater la coquille pour voir qu'il y a cette espèce d'épanouissement de notre vie contemplative et de notre vie unitive. Et on veut distinguer, ne pas continuer à ne pas distinguer l'être de la vie, vous voyez bien, parce qu'on a également un traumatisme, comme nous avons vu les fois précédentes, par rapport à notre origine vitale. Notre origine vitale nous a conduit immédiatement dans un traumatisme qui se répercute en nous à travers ces espèces de nostalgie de l'origine, ces brisures de notre être, et du coup on a du mal à revenir à l'être, à la substance même de notre existence. Et confondant ainsi notre origine dans le temps, du point de vue de l'être, et ne voulant pas la distinguer notre origine dans le temps du point de vue de la vie, on devient forcément quelque part réincarnationniste. Vous voyez bien que la philosophie, le problème de la réincarnation, c'est un problème philosophique, ce n'est pas du tout un problème religieux. C'est les gens qui ne veulent pas voir en face qu'est-ce que c'est que l'être. Et ils ne sont pas capables non plus, dans cette paralysie contemplative, de voir la différence radicale. Si simple, si facile, je dirais pas évidente, mais si claire, en tout cas, qu'il y a entre l'ousia, source de l'être, et l'âme, source de vie. Ceci est donc d'une importance capitale. Pour pas mourir idiot, je voudrais vous apprendre à faire l'induction de la substance. Sinon, vous allez avoir pas mal de vie antérieure, je tiens à vous le dire. Et les coups de pied dans le postérieur, je tiens à vous le dire aussi. Bon. Hein?
C'est les mouches.
C'est les mouches. Oui, c'est les mouches. La génération spontanée, vous comprenez, de nos individuations à travers des corps successifs, ça ne va pas. C'est aussi périmé que cette histoire de génération spontanée des animaux dans un fumier. En disant, bon, voilà, tu mets du fumier, tu mets quelque chose comme ça, et à ce moment-là, il commence à apparaître des moustiques. Donc, c'est le monde végétal qui a fait naître le monde animal. C'était ça. On appelait ça la génération spontanée. Vous sentez bien que là, quand on disait des choses comme ça, c'était vraiment la suprématie même de la bêtise. Mais je crois que c'est encore plus stupide de confondre l'induction de l'âme et l'induction de la substance. Parce que du coup, je perds totalement mon identité. Je perds contact avec mon identité. Puisque je vais identifier mon identité avec des identités qui ne sont pas du même genre ni de la même espèce. C'est le perte de contact total. C'est cela que ça vient la maladie réincarnationniste. C'est du métapsychique. C'est nous qui sommes une génération, parce que c'est un problème de génération, hein, qui refuse totalement d'accueillir l'autre en tant qu'autre. Hein, et qui refuse totalement de se laisser déterminer par un autre dans l'extase de l'amour humain. Ce refus de la vérité dans l'ordre de l'être et de l'amour substantiel fait qu'on va s'enfermer dans une espèce de retour continuel, cyclique, d'un samsara perpétuel, une destinée, n'est-ce pas, à laquelle on ne peut pas échapper en dehors précisément de l'appauvrissement absolu, qui me fait m'identifier au tout et m'identifier donc au non-être, à l'anatman. Cette espèce d'extraordinaire cycle infernal dans lequel l'humanité et la culture contemporaine essayent d'induire l'intelligence humaine et la manière de regarder les réalités économiques, humaines, éthiques et aussi religieuses. Parce que c'est si fort que maintenant le monde religieux lui-même est introduit dans cette confusion. Alors que c'est si simple, si évident, que c'en est vraiment malheureux. Il y a de quoi verser des larmes. Parce que si encore c'était compliqué. C'est très simple. Mais pour nous, parce qu'on est enfermés. Alors, je vous dis, à nous qui sommes ici, n'est-ce pas, que si pour vous, ça paraît très compliqué, je dis, oh là là, raison de plus pour le faire. Parce que ça veut dire que, oh là là, c'est que vraiment, vous êtes enfermés dans la substantialité de la substance. Ah oui! Alors là, clignote en rouge. Hein. Faites gaffe, les mecs. Hein. Donc revenons. Revenons. On dit ipsolipsisme transcendantal. C'est pareil. Substantialité de la substance, c'est du côté métaphysique, si vous voulez. Et ipsolipsisme transcendantal, c'est du côté donc de l'esprit. Hein? Ipsolipsisme. C'est ipsa ipsum, ça veut dire, vous voyez, moi-même, me ipso, ego ipso, moi-même, c'est pas ipse ipso, L, à l'état absolu, le L c'est toujours transcendantal, c'est toujours une transcendance à l'état absolu, ips, alors, comme qui féconde encore, ipsi, moi-même, n'est-ce pas, moi, à l'état absolu, redupliqué sur moi-même, transcendant de manière transcendante et éternelle moi-même, et isme à l'état de système. C'est extraordinaire. Ipsolipsisme transcendantal. Ça, si vous voulez briller dans un... On s'en fout de briller dans un salon. Hein. Mais vous comprenez que si... Vous voyez, là, c'est ça, c'est très grave, ça.
Différence vous faites avec le
narcissisme. Le narcissisme, c'est psychologique. Hein. L'ipsolipsisme transcendantal, c'est l'esprit, c'est spirituel. Tandis que la substantialité de la substance égale, c'est la perte totale de l'être. C'est la perte. On perd tout avec Hegel. Tout est perdu. Il ne reste plus rien. Alors du coup, vous voyez. Bon, alors, c'est pas le même niveau. Alors. Faisons donc l'induction. Je vais essayer de faire l'induction, mais la manière, je ne sais pas, vous m'excuserez, vous me direz, ah, c'est uniquement ça. Mais pourquoi est-ce que ça fait 6 mois qu'en patauge, hein, vous ne pouvez pas le dire tout de suite, non? Ouais. Je voudrais quand même vous faire un tout petit rappel avant. Pardon. Si vous commencez à avoir des glandes, c'est bon. J'essaye de vous gonfler au maximum. Et tant que les veines ne vont pas sauter, là, je ne pourrais pas vous faire faire l'explosion de l'induction de la substance. Voilà l'induction. Je vous l'ai déjà fait plusieurs fois, donc c'est facile. Il faut que vous puissiez voir qu'est-ce que c'est qu'induction. Qu'est-ce que c'est que cette opération par laquelle enfin l'intelligence humaine respire. De manière naturelle, native. Pas artificielle. C'est pas de la logique. C'est pas... C'est pas de la spéculation. De la cérébralisation. Pas du tout. C'est natif. Induction. Extraordinaire. Je vous ai fait plusieurs fois l'induction de l'âme. Je voudrais la refaire avec vous. Très simple, très rapide, comme ça. Boum. Je suis là. Je me recueille sur moi-même, en moi-même, par moi-même. Je suis lucide sur moi-même. Je vois qu'à l'intérieur de moi-même, il y a tout de même de la vitalité. Il y a toute une intériorité. Mon corps a une vie de l'intérieur. Une vie de l'intérieur. Mon cœur aussi, mon amour, mes passions, mes pensées, c'est de l'intérieur. Il y a une lumière aussi. Il y a une unité vivante. Il y a des morts continuelles, puisqu'il y a à peu près quelques centaines de morts par seconde. Je parle pour les cellules. Il y a plein de trucs là-dedans. C'est vrai. Et je perçois cette vitalité, cette intériorité, cette lumière vivante qui est en moi. Je la perçois, je suis capable de voir quand même que il y a... c'est mon moi vivant. Bon. Et en même temps, je vois que ça va vraiment dans des directions très, 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 très différentes. Donc on est d'accord. Ça grouille de vie là-dedans. Et donc je suis obligé de voir que il y a en même temps l'ego. À un moment, je touche ce qu'on appelle l'ego, quelquefois, c'est ça. J'aime pas trop ça, mais enfin bon. Le fameux ego. Au centre de moi-même, il y a cette espèce de vitalité, cette unifique. J'ai une seule vie, au fond. J'ai une seule intériorité. Et puis en même temps, j'ai des intériorités qui vont dans tous les sens, qui se bousculent comme le flipper, n'est-ce pas? Bon. Je flippe, c'est pour ça que ça donne. Ça se dit moins maintenant, mais enfin, quand j'étais jeune, on disait toujours, je flippe, parce que c'était l'époque du LSD, vous comprenez? Bon, maintenant c'est l'extase, c'est pas pareil. Alors, donc, et là, je vois qu'il y a l'unité vivante de l'ego, et en même temps, le bouillonnement vital de toutes mes opérations. Et je m'aperçois que finalement, mais il n'y a quand même qu'une seule vie. Pourtant, elle a cette forme une du moi, et puis cette forme de l'anarchie, cette forme du grouillement. Il y a donc quelque chose qui est à la fois source de l'unité, source de l'ego, en dessous de l'ego, et en même temps source de la multiplicité des opérations vitales. Et donc ça y est, j'ai touché à source des deux, et au centre de cette source, il y a ce qui origine cette source. Et j'appelle ça l'âme. J'ai fait une induction, là, vous voyez. L'induction, c'est que je ne vois pas l'âme, je ne sens pas l'âme, mais je suis absolument certain qu'il existe quelque chose de réel qui explique cette réalité que je vis dans mon intériorité, cette unité vivante, et en même temps ce grouillement vital. Parce que le grouillement, ça implique qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et l'unité, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose. Alors, comment tu peux expliquer qu'il y a un truc qui est en même temps un et en même temps multiple? Il faut bien quelque chose qui explique et l'un et l'autre. Parce que je le constate, en effet, que dans la réalité, c'est la même chose. Donc, il y a bien quelque chose qui est la source et de l'ego, et de la multiplicité, et du grouillement. Ça va? Et là, c'est mon intelligence qui le voit, ça. C'est moi qui vois avec évidence. L'induction, c'est évident. Alors, on la fait ou on la fait pas. Moi, je ne peux pas la faire à votre place. Je ne peux pas vous faire une démonstration. Je ne peux pas vous expliquer. Voilà, ici, toc, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et donc, c'est une induction. Non. Je peux vous dire comment, moi, j'arrive à élaborer le problème, à regarder mon expérience vivante intérieure. Et à un moment donné, c'est lumineux. Je saisis la source des deux. Alors, je la fais ou je ne la fais pas, hein. Ça, je suis d'accord que je la fais ou je ne la fais pas. Je ne peux pas la faire à votre place, hein, l'induction. Je ne peux pas. Je peux vous dire dans quelle direction il faut aller pour la faire. Mais ça, c'est élémentaire, hein, l'induction de l'âme. Quelqu'un qui n'a pas touché en la source de sa vie, c'est très ennuyeux. Très, très ennuyeux. Ça, il faut bien reconnaître. Maintenant, voyons l'induction en métaphysique. Donc l'induction psychique, c'est une chose. Maintenant, l'induction métaphysique, l'être. Donc la vie. Psyché, c'est l'âme, n'est-ce pas? C'est la vie. Et puis métaphysique, donc c'est ce qui est au-delà, ce qui soutient, qui est substrat du physique, ce qui fait tenir tout le physique en un. Alors, ici, l'être, j'existe. J'existe. Signaler un truc, tout à l'heure je vous ai fait qu'il y a, le point de vue logique, je ne veux pas y revenir puisque ce n'est pas la peine, vous ne ferez pas l'induction avec ça. Donc je ne veux pas vous paumer avec ça. Mais parce que si un jour on vous dit en métaphysique, vous allez la substance, ah oui, substance première, substance seconde, sujet, catégorie, n'est-ce pas? Vous dites non, ça ne m'intéresse pas ça. Dites-lui tout de suite, ça ne m'intéresse pas ça. Je veux bien, c'est intéressant pour huiler, j'allais dire, la discussion scolastique, si vous voulez. Pour un théologien, c'est intéressant. Pour quelqu'un qui va faire la théologie. Mais pour quelqu'un qui veut faire l'induction, ça va le paumer. Donc dites, attention, moi je veux faire l'induction de la substance. Alors, je vais vous dire. Premièrement, vous pouvez regarder déjà par un aspect par lequel j'ai commencé au début de l'année, à savoir, vous pouvez regarder qu'à un moment donné, vous êtes une mère, vous êtes une femme, vous êtes mariée, et puis à un moment, dans l'unité sponsale, une fécondation a lieu. Une fécondation a lieu, et d'un seul coup, un nouvel être existe. À un moment donné, un nouvel être existe. Vous ne savez pas exactement à quel moment. Ce n'est pas exactement le moment, parce qu'ordinairement, vous en rendez compte 3 semaines plus tard, puisqu'il n'y a plus les mêmes phénomènes physiologiques qui se produisent dans le corps de la femme. Mais en attendant, il y a un avant, il y a un après. Il y a un moment où il y a une continuité vitale entre la fécondation, il y a bien une, on le sait aujourd'hui, une rencontre masculine et féminine dans le sein de la femme. Bon. Et puis, il y a un commencement vital qui commence. Et puis, à un moment donné, je suis capable de voir qu'il y a quelqu'un qui existe, qui a son autonomie par rapport au père, par rapport à la mère. Il a son autonomie. Et je vois bien qu'il y a une différence entre l'âme. Parce que le fait qu'il y ait la vie dans cette petite réalité qui commence, c'est une chose. Mais le fait qu'elle existe et qu'elle ait son autonomie, je vois la différence quand même. Il y a une sacrée différence. Déjà, j'espère que ça, c'est pour les femmes, parce que les femmes sentent mieux ça. La différence extraordinaire qu'il y a entre la continuité vitale, et puis à un moment donné, elles savent que l'être, il existe. Il a son autonomie, alors, son autonomie profonde. C'est vraiment un être humain. Bon. Quand il meurt, vous assistez à quelqu'un qui meurt. Vous assistez à quelqu'un que vous-même, vous n'êtes pas mort, mais vous-même, à un moment donné, vous allez mourir. Bon. Mais le jour où vous allez mourir, là, je suis sûr que vous avez déjà rêvé à la mort, j'espère. Parce que c'est génial, la mort. C'est le moment le plus agréable de toute sa vie. Alors, la mort, c'est génial. Alors donc, vous pensez à la... Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort? L'expérience de la mort. C'est bien, effectivement, votre corps qui n'en peut plus et qui ne peut plus, quelque part, garder cette unité avec son âme, avec cette source de vie qui est en nous, qui va séparer. Qui va, dans un dernier souffle, qui va se séparer de son corps. Et pourtant, la conscience de soi, cette espèce de lumière vivante qui est dans l'âme, se sépare du corps. Et vous voyez bien que d'un seul coup, quand vous êtes face à quelqu'un qui meurt, ça c'est vous qui êtes en face de quelqu'un qui meurt, que vous le connaissez par l'âme, si je puis dire. Si vous le connaissez par l'âme, vous voyez tout à fait qu'il y a un moment donné où le corps qui est là, son âme, sa vie n'y est plus et pourtant il est là. C'est pas parce que le corps et l'âme sont séparés qu'il n'est pas. Vous le sentez tout de suite, vous voyez tout de suite la différence donc entre la disparition de la vie et la disparition de l'être. Et vous voyez bien, vous faites la distinction face à quelqu'un qui meurt, face à quelqu'un qui commence à vivre, vous voyez la différence qu'il y a, même si les deux adviennent finalement en même temps. J'espère que vous voyez bien que dans l'expérience concrète de la mort ou de la venue de la fécondation, de l'existence d'un être humain, vous voyez tout de suite qu'il y a quand même une différence entre l'âme et l'être. J'espère. J'espère que vous voyez cette différence entre les deux. Et voyant cette différence entre les deux, vous comprenez, moi je vais vous l'expliquer maintenant si vous voulez par un autre moyen. Cette histoire, ça c'est le premier point. Hein. Je vais prendre plusieurs points. Ici le premier point, c'est que je regarde l'origine de l'être et puis le devenir substantiel, si vous voulez. L'origine de l'être et je compare avec l'âme. L'âme et l'être, et l'ousia, et la substance. voyez bien que l'âme à la mort, par exemple, l'âme spirituelle s'en va du corps. Elle ne subsiste plus dans le corps. Le corps ne subsiste pas dans l'âme. Le corps n'a plus sa substance, Lucia. Ça va? Mais ça ne veut pas dire que l'âme n'existe plus. Ou si vous préférez, à nouveau, je recommence. Je me remets en moi-même. Je ferme les yeux. Je touche en moi la vie. J'induis l'âme. Et cette âme que j'induis, que je pose comme étant évidemment quelque chose qui existe, je vois bien que cette âme, elle est là. Elle est source de ma vie intérieure, de mon intériorité, mais en même temps, je constate qu'elle existe. Le fait que cette âme existe, c'est une chose. Et le fait que cette âme vive, c'est autre chose. Que ce soit sa source de vie, c'est autre chose. Quand même, ça c'est assez évident. Vous voyez, je fais quand même la distinction immédiatement entre la source de ma vie et l'existence de cette source. Je suis tout à fait d'accord que c'est assez affectif, assez intuitif, c'est vrai. Mais n'empêche que cette convergence intuitive est très intéressante. L'âme est source de vie, source d'unité vitale et source du grouillement vital, pluralité, multiplicité. Mais l'être, lui, il est source d'unité entre le corps et l'âme. Ah! C'est l'être, l'ousia, c'est l'âme et le corps subsistent dans l'être. L'être est source d'unité entre le corps et l'âme. C'est pour ça que quand l'âme s'en va, à un moment de la mort, je n'ai pas exactement la même expérience par rapport à l'âme et par rapport à la substance. Voyez bien que quand quelqu'un meurt, du point de vue de la vie, il n'y a plus rien. Mais du point de vue de l'être, il y a encore quelqu'un, grâce au corps. Mais si je n'ai pas saisi le jugement d'existence, je veux dire le corps, c'est rien, c'est un accident. Il peut reprendre un autre, ça ne fait rien, c'est un vêtement. Et si je n'ai pas saisi la substance, vous sentez bien à quel point c'est grave, parce que du coup... Aucune différence, après tout. Ce qui compte, c'est l'amour. Où est la fidélité à ce moment-là? Puisque je peux changer les corps, c'est pas ça qui est important, puisque si je trouve la même personne derrière un corps différent. La belle blague. Bon, vous avez tout compris. C'est démoniaque, quoi. Alors, donc, voilà. Vous avez bien, ici, l'âme, l'osia. Vous voyez bien que ici, l'air de rien. Je vous ai ménagé une voie pour l'induction. Rien qu'avec ça, voyez bien, vous sentez bien qu'il y a une source qui fait que l'être donne la vie, l'être reçoit la vie, l'âme, il reçoit l'individuation de cette âme dans un corps. C'est clair ça, on ne peut pas ne pas le voir. Bon, je sais bien que c'est l'expression qui doit gêner. C'est le fait que je vous l'exprime avec des mots avec lesquels vous n'avez pas d'habitude. Mais simplement... Vous faites-le vite de manière intelligente. C'est du gros bon sens. J'existe. Alors attention, je vous demande ici de faire le contraire à ce que je vous ai demandé de faire tout le temps. J'existe. Ah, je suis suspendu à la créature de Dieu. Je vous demande justement de laisser tomber ça. Disons, j'existe, mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que c'est qu'il y a à l'intérieur du fait que j'existe? Qu'est-ce qui fait, quelle est la cause, quel est le principe, qu'est-ce qui structure de l'intérieur ce fait d'exister, être. Et je vois que c'est... Rien que le fait de me poser la question sur moi-même, puisque je vis, je vois que je touche une nouvelle source qui n'est pas l'âme. Parce que quand je touche la vie, je trouve cette source qui est l'âme. Et quand je fais le jugement d'existence, je m'aperçois que ce n'est pas du tout la même source. Alors, je fais l'induction, je ne la fais pas. Mais en tout cas, à l'intérieur de l'être, il existe l'être. Hein, je veux dire, l'être, je le touche, j'en suis sûr. Donc, il y a nécessairement une source. Ça, c'est sûr. À l'intérieur du même, immanente. C'est impossible autrement. Bon. Ok, premièrement. Deuxièmement, je peux aussi revenir au fameux jugement d'existence qui est là, ceci. Alors attention, vous voyez bien que ici, c'est très embêtant. Si je le fais mal, il y a deux dangers. Hein. Si je fais mal mon induction ici, en prenant le fait que j'ai de la vie, j'ai une source de vie, et puis dans un corps, et puis le fait que j'existe, il y a un danger. C'est que finalement, moi, en ce qui me concerne, mon être vivant, mon être spirituel, c'est un être qui est capable de se saisir dans sa source. Donc finalement, la source de toute mon existence, c'est bien l'âme spirituelle. Et la source de mon existence, dans le jugement d'existence, c'est l'ousia. Donc je peux confondre, finalement, mon ousia avec la manière particulière dont l'être se réalise dans un homme. Mais il n'y a pas que les hommes qui existent. Il y a aussi le cosmos existe, et pourtant il n'y a pas d'âme. Et donc vous voyez bien que je risque de voir, si je fais ça, je risque de penser que ce qui fait la substrat de l'autonomie de l'être par rapport à l'âme, c'est la matière. C'est la matière, et donc cette autonomie vitale me viendrait de la matière. C'est ça le danger. Si je suis trop pas assez réaliste, ce sera exactement le contraire. Je veux dire, la détermination dans l'unité, elle me vient uniquement de la forme pure. J'ai une forme, cette forme essentielle. Vous voyez ? Et donc finalement, il y a une source formelle. Et je risque de tomber dans ce qu'on appelle l'ontologisme, à savoir, c'est un risque, un gros risque, de dire, mais finalement, oui, c'est vrai, à travers, il y a une source de cette forme substantielle, et ça, elle ne peut être que perpétuelle, cette source de forme substantielle. Et finalement, c'est la forme en soi. Il y a quelque chose d'inné en moi. Bon. Mais je laisse tomber ces deux dangers. Simplement, je vous demande simplement d'être très très simple avec moi en acceptant de dire « je vis ». Mais oui, mais j'ai une source de vie, c'est l'âme. Ah oui, mais elle existe. Moi, je pense que c'est plus simple. C'est quand même pas pareil de voir que cette source de vie existe dans mon corps. Et c'est quand même pas pareil, hein. Et je suis obligé de toucher, je suis obligé de revenir à mon corps et au jugement d'existence pour constater que cette vitalité, source de vie qu'on appelle l'âme, dans mon corps, elle existe. Et là, je vois que l'ousia est source, est une source différente de l'âme, source dans l'ordre de l'être. Alors là, je suis sauvé, hein. Rien que ça, si vous arrivez à le toucher, si ça vous arrive, ça y est, si enfin... Vous avez l'âge de... Il faut avoir 6 ou 7 ans, hein, pour le développement de l'intelligence, pour pouvoir faire ça. Hein. 6 ou 7 ans. Très facile. Alors vous oubliez tout ce que je vous ai dit sur Heidegger, sur Hegel, sur machin, sur Saint Thomas d'Aquin. Hop. Voyez. Intériorité, induction de l'âme, ça vous êtes tous capables, j'espère. Oh non, écoutez, ne me dites pas que vous n'êtes pas capables. Réveillez-vous à nouveau, une fois que vous avez induit l'âme, touchez-vous à travers votre corps, faites le jugement d'existence, qu'est-ce que c'est que cet être, et vous voyez que cette âme qui est source de votre vitalité, dans le corps, elle existe. Et donc il y a quelque chose qui explique cette nouvelle source d'unité. Et dans l'être, il y a une source à la fois du fait que vous existez de telle manière et à la fois le fait que vous existez réellement. C'est deux choses différentes, d'exister de telle manière et d'exister réellement. Et à chaque fois, je peux faire un jugement d'existence sur quelqu'un d'autre et sur les plantes, sur le monde végétal, sur le cosmos. Et je vois qu'à chaque fois, c'est le est encore que je trouve. Mais c'est à chaque fois dans des individus différents. Et quelque chose qui est source d'une détermination métaphysique et puis en même temps de déterminations différentes, multiples. Donc je vois bien qu'il y a une source qui reçoit toutes ces déterminations multiples et en même temps qui est une. Donc il y a nécessairement une source. Hein. Dès que vous avez plusieurs choses et une seule chose, il y a quelque chose qui explique qu'il y a à la fois l'unité et la multiplicité dans l'ordre de l'être. Ça, c'est impossible autrement. Et c'est de l'intérieur, vous savez, puisque c'est à travers le jugement de l'existence. Alors simplement, voyez bien que ça, ma manière de vous l'expliquer, est une manière compliquée. Mais l'induction que je vous demande de faire, c'est quelque chose de très simple. Donc je vous demande pardon si je suis compliqué quand je vous l'explique. Je vous en demande pardon. Parce que je suis moi-même de votre génération et nous ne sommes pas très très futés aujourd'hui. Donc je suis comme vous. Mais je voudrais, donc maintenant prenons maintenant une autre manière. Ceci est, ben je viens de vous le faire. Je reviens au jugement d'existence et je vois que il y a moi. Je vois le fait que j'existe et je vois que Maurice existe. C'est extraordinaire. Je touche Maurice, il existe. Je touche comment est-ce que vous appelez ça, la jeunesse triomphante, et elle existe. Et tout ça, c'est extraordinaire. Et tout ça, ça existe. Bon, et je vois que c'est vraiment, vraiment quelque chose de substantiel. Alors voyez bien, à partir du moment où je vois que c'est possible de se demander qu'est-ce que c'est qu'il y a dans ce là, dans ce truc là, ce est là, qu'est-ce que c'est, si je pouvais rentrer dans ce, dedans pour le saisir à l'intérieur, oui, je suis, oui, mais bien sûr, il y a quelque chose à l'intérieur de est qui fait que c'est lui qui existe de cette manière-là. C'est de l'intérieur tu es, que ceci vient s'enraciner. Je ne peux pas ne pas le voir, ça. Et si c'est de l'intérieur, ça veut dire que le être, c'est pas monolithique, impossible de rentrer dedans, impossible de intus le gérer, de rentrer à l'intérieur pour le saisir et le voir. Et de voir enfin quel est le principe, la cause à l'intérieur qui fait que cet être, le est, l'existence que je touche quand je vois que j'existe, et premièrement, elle subsiste, c'est-à-dire c'est du solide, c'est de l'intérieur que c'est solide de l'être. Et deuxièmement, je vois aussi que c'est quelque chose qui est parfaitement déterminé. Ça subsiste, ça veut dire je ne sais pas trop, et c'est parfaitement déterminé, c'est un homme, c'est moi, c'est Maurice. Il n'y a rien à faire. C'est la source de l'existence de Maurice. Et en même temps, c'est la source de quelque chose qui subsiste tout le temps. Oh, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de comprendre ça, de le saisir de l'intérieur. Parce qu'à ce moment-là, je vois que ce n'est pas à cause de mon âme que je subsiste, que je suis immortel. C'est l'existence substantielle de mon âme qui fait que mon âme a quelque chose de subsistant. L'immortalité de l'âme, vous voyez bien. Quand vous dites immortalité de l'âme, vous ne pouvez pas le démontrer. Impossible. Personne ne peut démontrer l'immortalité de l'âme. Sauf si vous arrivez à démontrer l'existence de Dieu. Alors ça, c'est autre chose. Avis aux amateurs. C'est pas ? Mais que l'âme subsiste parce que l'âme existe, voyez ? Oui. Et que cette âme, elle est individuée dans un corps. Ça aussi, ça me vient de cette subsistance. Parce que le corps subsiste et l'âme subsiste dans l'existence de moi, dans ma propre existence. Et donc je vois que l'individuation, vous voyez bien, la détermination substantielle qui est la mienne, me vient bien de cette substance. Donc autrement dit, j'ai découvert non seulement la source de l'être de l'intérieur, mais en plus je m'aperçois qu'il y a un rayonnement de la substance sur mon existence particulière. Elle subsiste et elle est individuée. Je suis un individu particulier subsistant. C'est extraordinaire. Ça a des propriétés que n'a pas l'âme. C'est pas l'âme qui donne l'individuation. Alors, si aimer quelqu'un, c'est toucher son âme, se la prendre et réaliser l'unité des âmes, c'est bien, c'est pas mal. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Il faut donner sa vie, il faut recevoir la vie de l'autre, il faut qu'on puisse réaliser l'unité, n'est-ce pas ? Vital, mais attention, si c'est pas contemplatif, c'est-à-dire si ça ne va pas, si nous n'allons pas jusqu'au toucher, jusqu'à la conjonction, voyez, C'est extraordinaire l'Eucharistie pour la transubstantiation. Et s'il n'y a pas cette conjonction, ce toucher vis-à-vis de la substance, de l'existence de l'autre, c'est un problème. Le problème, ce sera que je ne vais pas faire l'unité des deux âmes. On ne fera pas une seule vie vraiment, on fera une seule vie quant à l'émanation de l'âme, ce qui émane de l'âme de l'autre, hein, finalement, à bien regarder. Donc on va se rencontrer dans la lumière. La lumière qui sort de l'âme, de la source de vie de l'autre, et la lumière qui sort de ma source de vie vont se confondre mutuellement, se mélanger. Et donc nous vivrons une unité d'âme, une unité de lumière, une unité de diaphane, si vous préférez. Une unité, vous le traduisez tout de suite, j'espère, métapsychique. Une unité des énergies. Et paf, ça y est, je suis sur les fréquences de perpétuité. Je suis sur les fréquences de la continuité, parce que pour le petit bébé, il n'y a aucune discontinuité du point de vue vital, et du point de vue métapsychique, et du point de vue des énergies, et du point de vue de la lumière qui émane justement de la source de vie, qu'on appelle l'âme du père et de la mère. Et bien ça, elle y est toujours, la fréquence métapsychique, la fréquence vitale. C'est à un moment donné qu'il y a l'existence de cet être-là particulier, qui subsistera toujours, et qui ne subsistera jamais dans un autre corps. Impossible. Si vous n'avez pas fait l'induction de la substance, vous ne pouvez pas le voir. Impossible. Et l'induction, je vous le dis, hein, vous ne pouvez pas, je ne peux pas la faire à votre place. Donc, continuons. J'espère que vous voyez l'importance de ce problème. C'est un problème très important. Parce que si je n'arrive pas à le faire de la manière la plus simple qui soit, eh bien, je vais tomber dans la mystique des énergies, vous le savez très bien. Donc, vous tombez dans les fréquences cosmiques. Et dans les fréquences cosmiques, je suis désolé, mais ça... vous risquez, ça risque d'être très intéressant. Ça, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, c'est passionnant. On découvre beaucoup de choses dans la mystique des énergies. Beaucoup de choses. Mais je ne vous le conseille pas parce que vous arrivez à un moment donné à une impasse. Et pour être absolument, que ce soit absolument clair pour vous que vous êtes dans une impasse, je vous donne 20 ans. Mais ça fait 20 ans de perdu et c'est emmerdant. Alors, et après, pour retrouver la substance, alors là, bon, si vous êtes bien accompagné, n'est-ce pas, il faut au moins un an, au moins. À condition bien accompagné tous les jours. Bon, alors.
C'est pour ça que les bouddhistes tibétains sont incapables de faire un acte d'adoration naturelle.
Et oui, parce que eux, pour eux, dans le bouddhisme tibétain, si tu veux, il n'y a pas de substance. Hein,
ils sont incapables de faire un acte d'adoration naturelle parce qu'ils n'ont pas découvert que dans le corps, il y avait quelque chose d'ontologique. Donc, en touchant le corps,
et oui, parce que, eux, ils disent... Parce que la mystique tibétaine, c'est une mystique de l'intériorité.
Donc, l'intériorité du corps, ils s'en éloignent.
Alors, ils touchent le corps de l'intérieur du corps, mais quand tu touches le corps de l'intérieur du corps, tu le touches par l'âme.
Voilà.
Donc pour eux, le corps reste toujours accidentel.
Ils touchent leur principe de vie.
Donc ils ne touchent jamais le compagnon du substantiel du corps. Ils n'ont jamais fait. Et pour eux, il ne faut pas faire de jugement d'existence. Parce que si tu fais un jugement d'existence, tu sors...
J'ai pris l'exemple de mon type, là, qui était un ancien chrétien des États-Unis. Mmh. Je lui ai fait, commencé à faire des jugements d'existence et des actes pour distinguer l'être et la vie. Il a commencé mais à péter les plombs, quoi.
Ah oui, parce que pour eux...
Parce que pour lui, l'enseignement du Dalai Lama, alors il a fui, il a dit, je veux bien, mais ça c'est avant ma conversion. Parce qu'il était foutu, il savait très bien.
Ah oui, ça fait...
Si vous revenez à la substance...
Ça fait tout exploser, oui.
On fait tout exploser la réalité.
Alors, toi tu dis, si tu reviens au jugement d'existence, moi je dis, il faut aller plus loin que le jugement d'existence, et il faut faire l'induction de la substance. Alors, l'induction de la substance. Donc, il faut saisir. Alors, je ne sais pas, moi, je peux vous proposer de prendre un schéma imaginatif, puisqu'aujourd'hui, on est dans une génération de la télévision. Donc, vous pouvez quand même un schéma imaginatif. Je sais très bien que ce n'est pas l'induction de la substance, mais n'empêche que ça va vous aider, je l'espère. Que vous faites votre Troisièmement, donc ça vous avez compris la différence. Il y a beaucoup de ceci, beaucoup de... Il y a Maurice, il y a Michael, il y a Véronique, etc. Tout le monde, ils sont là particuliers, ils subsistent tous, ils sont individués, et je peux faire un jugement d'existence. Et à chaque fois que je fais le S que je touche dans chacun d'entre eux, me permet de poser la même question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et l'être que j'ai abstrait dans tous les jugements d'existence, c'est le même. Sous le mode abstrait, dans l'interrogation, vous remarquez qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est la même question que j'ai fait le jugement d'existence sur Michael, sur Véronique ou sur Patrick. Hein. Pareil. Ou sur le cosmos. Vous êtes d'accord ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'être, c'est exactement la même question. C'est le même être. Mais quand je reviens au jugement d'existence, c'est à nouveau un être différent. C'est le S particulier. Ça va ? Donc c'est multiple et en même temps c'est un. Alors ? Il y a bien quelque chose qui, de l'intérieur, fait que cet être est à la fois multiple et à la fois un. Ça y est, vous avez tout de suite compris. Je peux, par mon intelligence, pénétrer dans le S pour voir qu'il y a une source à cet être, qui n'est pas Dieu. Et je l'appelle Ouzia. Ouzia. Alors là, je vous en supplie, rappelez-vous toujours ça. Là, vous voyez, j'ai fait une induction. Mais je ne sais pas si vous l'avez faite avec moi. Je vous ai montré comment je l'ai fait. Maintenant, il faut que vous la fassiez vous-même. Troisièmement, je suis. Vous revenez à, non pas ceci, mais je suis. J'existe. Moi, je suis. Oui, pardon.
Je crois qu'il y a une chose qui aiderait les gens. Oui. Au niveau pédagogique, c'est de partir des catégories, ne plus l'envisager du point de vue logique, mm-hmm. de l'envisager. Vous permettez ?
Oui, mais c'est ce que j'ai fait là à l'instant.
Oui, mais.
Puisque j'ai pris des sujets et j'ai pris des.
Oui, mais vous l'avez fait dans l'altérité du ceci-être.
Oui.
Et après, vous le faites dans l'immanence du je suis.
Oui. C'est vrai? Oui, mais alors attention, il ne faut pas qu'il craque non plus. Hein,
moi, je propose de partir de Pierre.
Oui. Mais c'est justement ce que je voulais éviter.
Non.
De partir des catégories. Ah,
non,
attention.
C'est pas le...
Allez, Michael, allez, fais-nous une induction de la substance.
C'est pas grave. C'est vous?
Fais-nous l'induction de la substance, vas-y.
Alors, moi je pense.
Non, mais chacun a ça, c'est sûr. Vas-y. Je vous écoute religieusement.
Moi, je pense que il y a quelque chose là au niveau logique,
oui.
et quelque chose au niveau métaphysique. Mais comme le langage ici exprime la pensée, alors la pensée, je ne dis pas qu'elle est au niveau métaphysique, hein, mais il y a une analogie mmh. entre la pensée au niveau du langage.
Oui, non, d'accord.
Et les modalités de l'être.
Une correspondance. Oui.
Une correspondance. Donc, si je prends ici la première, je suis en logique, je dis il y a le sujet et il y a le prédicat.
Bon, il y a Pierre est un homme.
Il y a le sujet et il y a le prédicat.
Pierre est un homme.
Pardon, bon. Ici il y a Pierre.
Oui.
Pierre, je peux en parler.
Oui.
En tant que sujet.
Oui.
Il est prédicat, c'est-à-dire qu'il est homme. C'est-à-dire que homme détermine Pierre
oui.
de l'intérieur.
Ben oui.
Mais là, quand je dis sujet-prédicat, je suis au niveau logique.
Oui.
Quand je suis au niveau métaphysique, oui. donc c'est la même réalité que je regarde d'une autre
oui, oui,
d'un
oui,
autre
oui,
angle.
Oui, oui, oui.
Donc je prends le jeu de Pierre, enfin... Je peux prendre
la réalité, tout simplement. Tu regardes
l'être de Pierre et l'être d'homme. Je constate que d'abord que c'est le même être. Parce que Pierre, c'est un homme.
Mmh.
Et que l'homme se réalise dans le ceci de Pierre.
Ouais.
Donc ici, je constate que Pierre est premier... En fait, il faudrait prendre une autre couleur. Pierre Pierre, là on y est au niveau logique.
Oui,
Pierre,
non, d'accord.
Il est premier.
Dans la réalité, oui.
Pierre, il est premier dans l'ordre de l'exister, dans l'ordre de la réalité, on va dire, de la réalité existante. Homme, il est premier dans l'ordre de l'intelligibilité existante.
Oui.
Existant. Homme existe.
Tout à fait.
Celui que je rencontre, c'est le ceci, c'est-à-dire c'est Pierre.
Oui.
Dans une réalité d'homme, mais je ne peux pas détruire homme.
Oui.
Donc Pierre est dernier, enfin premier à mourir, c'est-à-dire que je ne peux plus le... Pierre va mourir.
Oui.
Parce que homme
il va pas mourir.
Ne meurt pas. Et donc, je constate en deçà des catégories, il y a toutes les autres catégories logiques.
Mmh.
Il y a toutes les autres déterminations formelles de l'être. Mais je constate qu'il y a deux choses qui sont irréductibles ici. C'est qu'il y a une substance ici et une substance là. Une substance qui est intelligible et une substance qui est existentielle, réelle. Et je constate que je suis arrivé à une impasse.
Oui.
Au niveau métaphysique.
Et donc il y a bien quelque chose qui explique qu'à la fois il meurt, à la fois il meurt pas.
Platon disait que deux principes coadjacents ne peuvent pas être premiers.
Ben oui.
C'est plus des principes. Donc je suis obligé d'induire l'ousia principe au niveau de cette réalité du ceci, homme.
Voilà.
Pierre, homme.
Vous avez tout compris.
Et là, je fais...
Ben oui.
Mais c'est exactement ça, mais...
C'est pareil, mais c'est à partir du langage.
C'est à partir du langage.
Oui, oui, tout à fait.
C'est la méthode que je propose.
C'est la méthode de Saint Thomas, mais oui, c'est
oui,
la méthode
mais,
de Saint Thomas.
Oui, mais transposée en métaphysique.
Oui, mais le problème pour une assemblée populaire comme la nôtre, c'est que nous n'avons pas fait les catégories d'Aristote, et c'est pour ça que c'est si difficile. Et nous n'avons pas fait de critique, donc on ne voit pas très bien comment Pierre... à son fondement dans la réalité, et on n'arrive pas à saisir la réalité dont le mot Pierre est fondement, ça va ? C'est pour ça que c'est trop difficile pour nous. Je préfère donc revenir à l'induction simple. Ça va ? Mais je trouve tout à fait génial ce que tu dis en ce sens.
Non, mais c'est le
père Philippe. Hein. Oui, non, c'est génial que moi, Patrick existe. Patrick existe. Et puis un jour, effectivement, ça c'est la réalité, c'est pas le langage. Patrick existe. Patrick existe. Alors il y a Patrick, et puis l'homme existe. Alors dès que tu me touches, si un martien arrive, il n'a jamais vu un homme, il me touche, il voit que j'existe, et il voit que l'homme existe. Ça va ? Bon, un jour Patrick meurt, mais l'homme ne meurt jamais. Ça c'est sûr. Donc voyez bien que c'est pas de la vie. Donc il y a bien une source... au fait que je suis Patrick et que je suis en même temps homme. C'est substantiel d'être homme et c'est substantiel de subsister dans l'individuation. Donc on est donc d'accord, ça revient au même. Bon, mais je préfère le prendre par le bas que par le haut, ça va ?
Pas d'accord dans le domaine du langage.
Non, d'accord, c'est...
Au niveau des déterminations...
Non, tout à fait.
Je suis, si au lieu de dire Pierre, homme, au niveau du langage, au lieu de prendre un sujet Pierre et un prédicat homme, on prend l'altérité du ceci avec le prédicat de l'est. Donc on dit ceci est, c'est exactement votre deuxième
niveau.
Là. On aboutit à la même impasse.
À chaque fois, on trouve une impasse. C'est à cause de l'impasse qu'on est obligé d'induire.
Voilà.
Bon, donc on essaie de trouver les impasses. Donc là, on n'arrête pas de faire des inductions. Hein, donc on va revenir. Maintenant, prenons par exemple le fait que vous ayez une ce que je voudrais que vous compreniez ici. Parce que le but, c'est pas de décortiquer ce truc-là, ça, on s'en fiche. Bon, simplement, que vous ayez simplement ce désir, parce que ici vous êtes chrétien dans l'ensemble, que vous ayez ce désir de comprendre Ce que ça veut dire, regardez ce qu'on avait vu au début ici du cours, que le Verbe de Dieu fait subsister le Christ, Jésus, l'humanité de Jésus, en lui-même. L'humanité de Jésus subsiste. Cette subsistance, moi c'est à cause de ça que ça m'intéresse de vous en parler. Cette subsistance, c'est une propriété de l'ousia. C'est une propriété de la substance de subsister. C'est pour ça que ça y est. De même, quand on parle de l'Eucharistie, on dit qu'il y a transsubstantiation. L'ousia, le vin n'a pas d'ousia puisque le vin ne subsiste pas. Il suffit que je prenne le vin, ça ne subsiste pas. Donc il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'ousia. Vous voyez tout de suite, il disparaît. Donc il n'y a pas de subsistance de l'être du vin. Encore que vous me direz, le vin existera toujours, puisque vous l'avez bu, il y aura toujours du vin dans le tonneau. Oui, c'est vrai, mais à un moment donné, il n'y avait pas de vin. Et un jour, il n'y aura plus de vin. Quoique, on dirait, de l'Écriture dit que oui, mais bon, c'est un autre problème. Mais simplement, c'est que l'existence du vin, le vin, c'est le fruit donc de la vigne, elle vient de la vigne. Et l'existence de la vigne... elle vient, si on regarde le dépassement du point de vue vital, elle vient de quoi? Du monde végétal. Et le monde végétal existe, ça d'accord. Mais ça, donc laissons tomber le vin. Simplement, je dis, ici il y a transsubstantiation, c'est que ce qui fait que le vin est du vin, c'est-à-dire c'est du travail des hommes, qui fait que le vin est du vin. Est remplacé par la subsistance de l'humanité du Christ dans le Verbe. Transsubstantiation. Donc simplement, vous voyez bien qu'il y a toute une foi, toute une manière dont mon intelligence, brûlée, illuminée par la lumière surnaturelle de la foi, peut atteindre dans le Christ, si je fais de manière simple l'induction de la substance, si j'en suis incapable, je finis par me dire, c'est symbolique. Et c'est de toutes mes forces vitales que j'essaye de rentrer dans le symbole pour rentrer dans le mystère de l'Eucharistie. Mais si je fais ça, c'est une approche métapsychique, c'est plus la foi, c'est plus contemplatif, il n'y a plus de fécondité surnaturelle à l'Eucharistie en moi. Très emmerdant. Comprenez? Pareil pour la manière d'atteindre donc la subsistance de l'humanité du corps glorifié du Christ dans le Verbe. C'est pour ça, voyez, que je voudrais que vous motiviez à faire l'induction de la substance. Et en même temps, pas que vous paniquiez, surtout, il ne faut pas paniquer. Ne paniquez pas, je vous en supplie, c'est facile. Donc, je suis d'accord que prédicat, détermination, qu'est-ce que c'est que cet hébreu? Du chinois, chinoiserie. Bon, tout à fait d'accord, chinoiserie, si on veut. Bon alors, simplement, reprenez-vous, simplement, vous-même, et faites cette induction. Voyez bien que une chose est très facile à faire. Très, très facile. Si vous regardez ici, maintenant, troisièmement, je suis. Je suis. Qu'est-ce que c'est que cet être qui est dans mon « je suis » et vous dites, mais c'est curieux qu'en effet, il y a mon corps, mais ça c'est la partie matérielle de moi-même, de « je ». Et puis, il y a mon âme, ça c'est la partie spirituelle de moi-même, formelle de moi-même. Ah ben, au fond, finalement, bah oui, d'accord, le suis, c'est la présence de ce qui fait la partie matérielle de moi-même et la partie formelle de moi-même. Et à ce moment-là, si je dis ça, j'ai saisi quoi? Est-ce que j'ai saisi l'ousia? Je n'ai pas saisi l'ousia, j'ai saisi la nature. Je suis d'une nature humaine. Ma nature humaine fait qu'il y a en même temps quelque chose de corporel, de matériel en moi, et que de l'intérieur, cette matière a une forme particulière qui est moi. Mais c'est pareil pour l'arbre. L'arbre, tu touches l'arbre, tu étreins l'arbre, et tu vois qu'il y a une forme intérieure à l'arbre qui fait qu'il forme le gland. C'est extraordinaire. Du côté de la matière, ça ne ressemble pas du tout à un chêne. Et du côté de la forme, c'est la même forme. La forme naturelle du gland, c'est-à-dire de l'intérieur, c'est un chêne. La preuve, c'est que c'est la forme naturelle qui fait introduire son acte à la matière naturelle pour lui donner sa forme définitive. Donc la forme, elle est source. Ça, c'est ce que j'ai fait ici, c'est l'induction de la nature, l'induction de la forme, l'induction, on appelle ça de la phusis, pardon. L'induction de la phusis. L'induction de l'ousia, ce n'est pas l'induction de la phusis. J'espère que vous comprenez. Faites cette remarque toute simple. Moi, je me rappelle quand j'étais avec, en ermitage, l'ermite à côté s'appelait le père Jean. Bon. Le père Jean dit, ben, j'ai fait mes études de philosophie. Donc, c'est très important de faire l'induction de la substance. Ah, je dis, mon père, c'est intéressant. Est-ce que vous ne pourriez pas m'expliquer comment on fait l'induction? Eh bien, c'est très simple. Tu prends, prends une fleur. Si tu prends une fleur, tu t'aperçois qu'il y a de la matière. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et puis, en même temps, cette matière n'a pas été sculptée de l'extérieur. Or, la forme que a cette matière, c'est une forme que je constate qui est jolie, qui est belle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et cette forme, elle vient de l'intérieur de cette sphère. Elle ne vient pas de l'extérieur. Donc à chaque fois que j'ai une réalité de la nature, j'aperçois qu'il y a de la matière et de la forme. Tout dans la nature, c'est forme et matière. Voilà. Elle dit, ça c'est très très intéressant. Ça c'est vraiment important. J'ai entendu un certain père. Qui nous a expliqué ça. Et il y a quelque chose. Et très intéressant de faire l'induction de la forme et de la matière, et de l'unité, la source de la forme dans une réalité naturelle, la source matière dans les réalités naturelles. Pourquoi? Regardez, même pour notre théologie, dans tous les sacrements, je distingue quoi? Je distingue qu'il y a une matière et une forme pour donner une nouvelle réalité surnaturelle. Oh merde! Alors, c'est pour ça que vous voyez ces distinctions d'induction. Si je ne fais pas l'induction de la phusis forme-matière, comment est-ce que je vais comprendre les sacrements? Impossible, vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut pilonner la philosophie d'induction pour qu'on puisse rien y comprendre sur les sacrements, sur la foi, sur le Christ, sur la Présente Trinité, sur la transsubstantiation. C'est ça la rage qu'il y a contre l'induction et qui fait que nous, on a cette révolte en disant non, je ne ferai pas l'induction. Eh bien, je vous le dis, c'est pas con, du tout. C'est périmé, c'est pas périmé. On est en avance. Au contraire, on est la pointe de l'avenir, du renouvellement total, n'est-ce pas? Alors, ici, allez, il me reste, ça veut dire qu'il me reste 10 minutes. Donc, je vais. Ici, quand dans mon jeu, mais je m'aperçois effectivement, bon, très bien, d'accord, c'est pas exactement la phusis, c'est pas la source. Alors, ici, ah oui, il y a une source de lumière, une source de vie spirituelle, une source d'unité, ah oui, une source d'extase, une source de vitalité, une source de corporalité. Quand on dit source de corporalité, ce n'est pas une source de matière, vous voyez, c'est une source de capacité à recevoir toute matière existante dans les autres corps. J'ai une source, et y a quelque chose qui est source de toutes ces sources, c'est l'âme. Ah ben voilà, ça y est, j'ai compris. Je connais un certain ermite qui me disait, il y a une autre induction. Et c'est une induction importante qui change bien des manières de concevoir la vie spirituelle. Et c'était pas un idiot, je peux vous dire, c'était pas loin d'être idiot. Il dit, parce que la grâce, c'est source de vie. Hein? Elle est liée à ma capacité. Saisir la différence entre une grâce actuelle, donc transitoire, et la grâce sanctifiante. celle qui sanctifie. La grâce actuelle détermine de l'extérieur de manière transitoire, la grâce sanctifiante détermine de l'intérieur de manière habituelle. Pour celui qui n'a jamais fait l'induction de la psyché, de l'âme, qui n'a jamais saisi ce principe d'unité, de diversité, du centre de lui-même, comment est-ce qu'il pourra discerner pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre la différence qu'il y a entre la grâce de sainteté qui le fait fils de Dieu et la grâce actuelle qui le fait mystico-dingo? Il a l'impression d'être divinisé. Ah, une rencontre de Dieu formidable, imbécile. Rencontre de ton ipsolipsisme transcendantal, c'est pas pareil. C'est pas bon, ça. C'est facile de faire l'induction de l'âme, parce qu'effectivement, c'est très très facile. Quelle différence il y a entre, ben vous voyez, des plantes magnifiques, elles ont une forme intérieure, vous voyez, elles ont, c'est extraordinaire, les étoiles, une forme, une splendeur, le cosmos, extraordinaire, c'est bien une matière qui trouve sa forme de l'intérieur, et puis il y en a d'autres qui elles-mêmes se forment, elles-mêmes se donnent leur propre forme, de manière vitale. Elles-mêmes, elles se meuvent, elles-mêmes, elles déploient cette forme de manière vivante. Et donc, ça ne suffit pas de dire qu'il y a une forme. Vous n'avez jamais vu une forme être active. Donc, nécessairement, vous êtes obligé de poser un deuxième principe différent de la phusis, différent de la nature. C'est une source de vie, ce qu'on appelle l'âme. L'animal a une âme. Il n'a pas d'esprit, d'accord ? Il n'a pas d'ousia, d'accord. Il n'a pas de substance, c'est évident. Je ne peux pas faire un jugement d'existence uniquement sur l'individuation du petit chat. Ça, c'est tout à fait d'accord. Je peux comprendre. Et donc, vous voyez bien par là que l'âme, l'induction de l'âme, c'est différent de l'induction du principe selon l'ordre de la nature. Maintenant, je suis en train de... Mais c'est à partir de mon jeu que je vois ça. Maintenant, je vais regarder le fait que j'existe, je suis. Ah, je suis. Mais oui, et oui, je, c'est moi. C'est moi. Et moi, si un jour je me déguise en Charles de Gaulle, et que mon épouse se précipite dans mes bras, ah, mon épouse, mon aimé, mon cher Charles, je vais lui casser la gueule. C'est moi, je, vous comprenez, mon corps joue ici un rôle. C'est sûr, je serais très vexé. Hein? Mon corps fait partie substantielle de mon jeu. Et il existe, il me fait exister. Et il me fait exister, il me fait... Et ça, c'est toujours, parce que si je meurs, ce sera pareil. N'est-ce pas? C'est ça le problème du spiritisme, entre nous, ça dit. Hein? Parce que quand dans le spiritisme, je fais venir des gens qui soi-disant sont morts, permettez, ils prennent le visage d'un mort. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas ce mort-là qui vient. Mais quelqu'un qui n'a pas fait l'induction de la substance, comment voulez-vous qu'il ait le discernement contemplatif qui lui permette de dire, mais ça, c'est lui qui... Oui, ce mec-là, il a l'air de savoir tout ce qu'il savait, tout ce qu'il ressentait, etc. Mais ce n'est pas lui. Comment sauras-tu? Blague. Alors, c'est ce que disait la Vierge à la Salette, hein, que dans le XXe siècle viendront de manière absolument généralisée un spiritisme absolu, total, élaboré. C'est extraordinaire, cette impossibilité de discerner ce qui est substantiel en moi. Et je vois que c'est une source donc différente de l'âme, une source d'autonomie dans l'ordre de l'être, je ne sais pas comment on dit. Et en tout cas, il faut comprendre que ici, il y a une différence complète entre le fait que je touche l'esprit en moi, la partie spirituelle qui est en moi, parce que cette partie spirituelle qui est en moi, elle est vivifiée par quoi? Par cette source de vie qui est l'âme. Et le fait de toucher en moi, le fait d'exister, racine, même de cette source de vitalité. Et la preuve, effectivement, le danger, vous voyez, le gros danger de l'induction ici, de l'induction de la substance, c'est ça que j'essaye d'exorciser en vous, si je puis dire, c'est que vous confondiez l'induction de l'âme et le toucher de l'esprit dans l'âme, et puis le point de vue de la substance. Ça n'a rien à voir. Bon, alors donc maintenant je reprends, parce que à partir du moment où vous faites à la fois, un, votre naissance, la première fois que vous êtes venu dans l'ordre de l'être, que vous avez reçu l'âme spirituelle créée par Dieu dans un corps, lorsque vous assistez à la mort de quelqu'un, lorsque vous aimez quelqu'un, qu'il est tout pour vous, que vous donnez votre vie tout entière, et que vous l'aimez, vous apercevez que votre être, votre substance est entièrement déterminée par un autre être que vous, et que vous voulez réaliser l'unité totale avec lui, jusque dans le point de vue de l'esprit, de la vie, et même si c'est possible de l'être, bon, eh bien, vous vous apercevez que d'un seul coup, ce type que vous aimez meurt, s'en va, il disparaît. Cela vous rendez absolument immédiatement compte qu'il y a quelque chose d'irréductible à la substance, même si vous avez été jusqu'au bout de la vie, du don de la vie. Vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose d'irréductible à la substance, et la substance est tout à fait autre chose que cette espèce d'autonomie dans l'ordre de la vie du temps. Parce que si, et c'est là quand vous regardez avec l'ami, mais l'ami avec lequel vous vivez quelque chose d'absolument total, bon, mais je reconnais que c'est difficile, non, rarement l'expérience, d'absolument total, alors à ce moment-là, je pourrais avoir au fond cette impression que l'être, la substance de toute ma vie, c'est l'unité avec lui, c'est l'amour. Je risque de confondre Ousia et source d'unité entre deux âmes. Voyez bien que dans cette quatrième ici, qui est le point de vue de l'amour absolu, je dis bien absolu, entre moi et quelqu'un d'autre, je vois qu'il y a quelque chose qui fait que les deux âmes, je ne dis pas les deux lumières qui émanent de chacune des deux âmes, comme dans l'union métapsychique de tout à l'heure, mais je dis bien, les deux âmes s'unifient puisqu'elles se donnent absolument l'une à l'autre, et puisqu'elles sont deux et à la fois une, il y a bien quelque chose qui l'expliquerait, ce serait l'ousia. Et que l'ousia, finalement, ne serait rien d'autre que l'amour absolu entre nous. Voyez bien qu'à partir de l'expérience d'amitié, ceci disparaît immédiatement si je vois que l'ami effectivement disparaît. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'irréductible à la substance, et que la substance n'est pas l'amour qui unifie de manière absolue nos deux vies. Donc voyez bien qu'à travers ces quatre manières d'approcher nos réalités concrètes, dans notre existence, à chaque fois que nous voyons que nous existons, j'existe, que j'essaie de rentrer pour comprendre de l'intérieur qu'est-ce que c'est que l'être, je m'aperçois que ce n'est pas l'amour, ce par quoi l'être se réalise dans sa perfection. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'autonomie fondamentale de l'esprit, ce n'est pas non plus le point de vue, donc, ce que je crois que je l'ai dit, ce n'est pas non plus la forme essentielle qui est la mienne. Je m'aperçois qu'il y a quelque chose d'autre, et que ce quelque chose d'autre, c'est ce qui explique la forme, ce qui explique la source de vie, ce qui explique l'individuation, ce qui explique cette ordination à l'amour et à l'extase, c'est-à-dire à l'acte. C'est le sujet, si je puis dire. C'est vraiment la substance même de mon être qui est là. Il faut que je la touche parce que je vois immédiatement ça. Je voudrais que ce ne soit pas moi qui vous le dise. Je voudrais que ce soit évident par votre toucher inductif, que ce soit bien évident, mais oui, mais c'est ça qui fait que je suis individué, que je subsiste toujours dans l'être. À partir du moment où, ça y est, cette induction a été faite, je crois qu'il devient possible pour nous de rentrer dans la perfection métaphysique, dans la perfection qui fait l'identité de l'être humain et de l'être tout court, qui est d'arriver jusqu'à l'intérieur de l'être à toucher sa propre perfection. Parce que, en fait, cette perfection, elle subsistera nécessairement, et elle me donnera mon identité absolument. Et il va falloir, grâce à ça, que je trouve ma perfection substantielle et ma perfection actuelle. Et c'est pourquoi, la prochaine fois, vous voyez, normalement, il faut 2 ans pour faire l'induction de la substance. Mais je vous ai fait un raccourci, hein, avouez. Mais avouez que ce n'est pas trop dur. Ah, pas dur. Hein. Mais ce n'est pas dur. Mais simplement, ce que je voudrais avec que vous compreniez, c'est que vous vous appuyez là-dessus. Et que vous preniez de temps en temps un arbre. Ou un bouleau, ou un chêne. C'est avec ces deux-là que ça marche le mieux. Et vous prenez l'arbre, et vous faites l'induction de la foussis avec l'arbre. Vous faites pour l'induction également de la source de vie de cet arbre. Et puis ensuite, comme vous le touchez, vous pouvez faire l'induction en fait de la substance à pression. Faites-le, essayez. Essayez, je vous assure, essayez. Il faut pour ça que vous soyez libre, disponible au niveau contemplatif. Alors à ce moment-là, vous ne pourrez plus vous faire avoir, plus jamais, par une idéologie. Parce que vous allez vous rendre compte que l'être et la substance qui fait que l'être était de l'intérieur, ça ne vient pas de votre idée, ça ne vient pas de votre subjectivité, ça ne vient pas de votre intellect. Ça ne vient pas de votre cérébralisation, ça ne vient pas de votre démonstration. Ce n'est pas une démonstration, c'est une découverte. Vous avez induit un principe et c'est évident. Et là, à ce moment, ça y est, vous laissez enfin respirer Heidegger, qui, grâce à votre induction, découvre la substance. Jusqu'à maintenant, il avait découvert l'existence de la présence dans la présence, mais il n'avait pas touché la substance. C'est-à-dire que grâce à votre induction, il est au purgatoire. Donc, si vous voulez vider Heidegger du purgatoire, vous faites l'induction en sa présence. Et enfin, il se trouve donc dans la découverte de la substance, et il trouvera donc la possibilité d'aller jusqu'à son acte. C'est le meilleur moyen de sortir Heidegger du purgatoire. Alors simplement, nous verrons la prochaine fois. Nous verrons la prochaine fois. Nous verrons la prochaine fois l'induction, évidemment, l'autre induction métaphysique qui s'appelle l'induction de l'acte. Et l'induction de l'acte, je tiens à vous le dire d'avance, c'est l'induction qui me permet d'être lucide sur ma mystique transformante. Voyez bien que quand on vit l'union transformante jusque dans sa perfection actuellement, si je veux, quelquefois ça se fait sans que je sois lucide sur ce qui se passe. Il y a des gens qui sont des saints et qui ne savent pas ce qui se passe. Ils ne savent pas. Et ce n'est pas important de le savoir. Remarquez bien. Mais d'un autre côté, c'est la profondeur de la perfection dans l'ordre de l'amour et de la vie contemplative qui permet corporellement cette union transformante, réellement. N'est-ce pas? Or, plus vous voyez quelqu'un, plus vous l'aimez. Moins vous le voyez, plus vous connaissez quelqu'un, plus vous l'aimez. Donc c'est quand même important d'être lucide sur cette perfection. Cette perfection dans l'ordre de l'être hein, qui va rayonner dans toutes les manières d'exister qui sont les nôtres, que ce soit naturel, que ce soit spirituel, que ce soit vital, que ce soit surnaturel. Et c'est pour ça d'ailleurs que la fameuse induction de l'acte que nous ferons la prochaine fois, que nous essaierons de faire la prochaine fois plus exactement, elle est très 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 très, mais alors très très importante. Mais alors très. Parce que ça, si je puis dire, l'induction de la substance, c'est un peu formel. C'est la cause selon la forme de ce qui est. C'est ce qui, de l'intérieur, formellement, structure l'être. Tandis que l'induction de l'acte, c'est de découvrir comment, de l'intérieur, mon existence en tant qu'être, en tant qu'elle existe, atteint sa perfection, actuellement. C'est la finalité absolue, si vous voulez. Et ça, il faut absolument la découvrir, parce que si c'est comme ça, on va la découvrir, ça ne vous inquiétez pas, c'est peut-être un petit peu plus facile. Heureusement. N'est-ce pas? C'est un petit peu plus facile. Mais de fait, de savoir que ça existe, je veux dire, ça va vous sacrément libérer. Parce que vous allez faire, du coup, notamment la distinction, que j'espère être importante pour vous, la distinction très importante entre... je m'excuse... en grec, l'acte, la deuxième induction, la première induction aboutit à l'ousia, hein, ousia, la substance. La deuxième induction que nous ferons la prochaine fois, elle aboutit à l'énergeia. L'énergeia. C'est quelque chose à l'intérieur du ceci est être, j'existe, à l'intérieur, qui explique pourquoi c'est si parfait le fait d'exister en tant qu'être. Et comment, si je puis dire, comment, dans le concret, cette existence va se réaliser dans cette perfection, se prolonger? Ça va se réaliser selon les cinq modalités de l'acte que vous connaissez. Et c'est grâce à ces cinq modalités de l'acte que ça fait cinq ans que je vous enseigne comment on vit, par exemple, du baptême, de l'Eucharistie, mystiquement, parfaitement, parfaitement, j'ai bien dit parfaitement, surnaturellement parlant. Donc je peux m'interdire de rentrer dans la perfection de l'union transformante. C'est évident. C'est évident. Sans la vie contemplative, vous voyez, c'est impossible. Alors ici, je ferai la distinction. Grâce à l'induction de l'acte, vous serez plus jamais, mais alors plus jamais, atteignable par quelconque tentation concernant une perfection autre qu'on appelle la perfection des énergies. C'est le but de notre année métaphysique, c'est de vous donner une autonomie sur la mystique lumineuse, n'est-ce pas, mais panthéiste et finalement anti-substantielle et anti-actuelle des énergies, pour pouvoir rentrer métaphysiquement, c'est-à-dire concrètement, dans l'énergeia, c'est-à-dire de que votre être soit actuel et actuellement engendrant de perfection spirituelle aussi, dans toutes ses modalités d'être. Si vous avez fait l'induction de l'acte, ce que nous essaierons de faire, eh bien je vous affirme que vous aurez une autonomie, j'allais dire de volonté, une autonomie intérieure, une autonomie contemplative, une autonomie de source, une autonomie aussi déploiement, une autonomie dans l'ordre de toutes les perfections qui sont possibles à l'être humain, et par conséquent vous serez immunisé contre toutes les propagandes absolument omniprésente à cause de la bête à sept têtes et à dix cornes qui cherche à tuer l'enfant qui sort de la femme, c'est-à-dire l'être humain. Et la mystique des énergies, la mystique de l'Antichrist, la mystique réincarnationniste, etc., qui est cette manière particulière de cracher dans la fin des temps, ne vous atteindra pas. L'Apocalypse dit qu'ils arriveront à convaincre et à séduire même les élus, c'est-à-dire même ceux qui vivent dans la grâce et dans les sacrements. Mais je tiens à vous dire, parce qu'il est dit aussi que la terre viendra au secours de la femme, et la terre, c'est précisément la métaphysique de l'acte. C'est de pouvoir rentrer dans l'acte, dans ce qui est source de l'être en tant qu'être, et qui fait sa perfection, de manière à ce qu'on soit, un, immunisé, deux, source de désagrégation de toutes ces